أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Alhamdulillah. Aujourd'hui, après une très longue attente, la Jamaat Ahmadiyya de la Norvège est en train de faire l'ouverture de cette très belle mosquée. La construction de cette mosquée a pris beaucoup de temps. En raison de certains obstacles, et ainsi on a dû retarder l'ouverture officielle de cette mosquée. Vous avez dû attendre son ouverture officielle. Mais cette ouverture officielle n'est là que pour démontrer la reconnaissance envers Dieu. C'est une expression que l'on montre au monde. Sinon, la construction des mosquées n'a aucune relation avec cette ouverture officielle. Et on ne peut dire que sans ouverture officielle, la mosquée ne sera pas complète. Je suis présent ici aujourd'hui et je suis en train de diriger la prière de Juma. Je suis en train de prononcer ici mon sermon. Et cet après-midi, il y aura une réception avec les invités, Inch'Allah. Ils seront présents pour l'ouverture de la mosquée. Tout cela est fait afin de prouver notre reconnaissance envers Dieu pour les faveurs que la Jamaat Ahmadiyya de Norvège a reçues de la part de Dieu. Tel est l'ordre de Dieu, c'est-à-dire que l'on doit évoquer ses faveurs afin de pouvoir lui être reconnaissant. Afin qu'en résultat de cette reconnaissance qui naît dans le cœur du croyant, afin que suite à cette reconnaissance, Allah lui accorde davantage de faveurs et de bénédictions. Une forme de reconnaissance sera d'être présente dans cette mosquée pour la prière et de la remplir, cette mosquée. Une autre forme de reconnaissance sera lorsqu'on va organiser cette réception pour les invités ou le fait d'annoncer l'ouverture de cette mosquée. Mais la véritable reconnaissance sera de remplir cette mosquée. C'est un fait important que tout Ahmadi doit toujours avoir en tête. Et certainement, Dieu va nous récompenser lorsqu'on va s'acquitter de son devoir. Il va récompenser amplement. Et ici, sur cette terre, l'on ne pourra imaginer l'ampleur de ces grâces qu'il va nous accorder. Dans ce hadith, on a évoqué ces personnes qui viennent remplir les mosquées, des personnes qui s'acquittent de leur devoir envers leur mosquée. C'est un hadith cité par Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu qui déclare que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui vient à la mosquée matin et soir, Allah va préparer pour lui son accueil dans l'au-delà. Dans le paradis, on prépare l'accueil pour ceux qui partent à la mosquée matin et soir pour la cause de Dieu. On est en train de préparer son accueil pour les 5 fois qu'il porte à la mosquée. Quant à ceux qui ont une longue vie et qui prient pendant 30, 40 ou 50 ans, certainement l'accueil que Dieu réserve à cette personne dans l'au-delà sera grandiose. L'homme n'est pas à même d'imaginer cela. En ce monde, lorsqu'on va recevoir un invité que nous aimons, lorsqu'on sait que cet invité va venir nous rencontrer, nous allons commencer à préparer son accueil. Et si on a une bonne relation avec cet invité, si on a un grand amour pour cet invité, on va essayer de faire de son mieux pour l'accueillir de la meilleure façon. Nos moyens sont limités, mais les moyens de Dieu sont illimités. Sa grâce, sa miséricorde n'a aucune limite. Son accueil et son hospitalité n'a aucune limite. Et certainement, il va tout faire pour bien accueillir son serviteur. Cela dépasse même l'entendement de l'homme. On doit chercher de telles occasions pour prouver son hospitalité. J'ai l'espoir que les Ahmadis qui habitent ici dans ce pays ont bâti cette mosquée avec cet esprit en tête et qu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs afin que, d'une part, ils puissent renforcer leur relation avec Dieu en respectant leurs devoirs afin qu'ils puissent avoir l'amour de Dieu, afin qu'ils puissent aussi s'acquitter de leurs devoirs envers leurs frères et envers les autres. Ainsi donc, un croyant fait des efforts pour recevoir le paradis dans l'au-delà, afin qu'il soit bien accueilli dans l'au-delà, et pour cela, il essaye de faire de sa vie sur terre une vie dans le paradis. Et comme je l'ai dit, on doit exprimer cette reconnaissance ouvertement. Et cette reconnaissance, c'est que nous devons établir cette société saine et pure ici sur cette terre afin de faire de notre vie une vie sur le paradis. Depuis quelques jours, j'ai donné plusieurs interviews à la radio, à la télé et dans les journaux. On m'a posé plusieurs questions, mais ils étaient intéressés quant au but d'une mosquée. Et pourquoi est-ce qu'on a bâti cette mosquée ici? Quels sont mes sentiments à propos de cette mosquée? Ma réponse était que nous voulons faire de cette société une société qui respire la paix. Nous voulons exprimer notre amour à l'égard des autres et nous voulons faire de cette terre un paradis afin que nous puissions adorer un seul Dieu et afin que nous puissions aussi exprimer les enseignements sublimes de l'islam dans notre vie afin que nous puissions faire en sorte que le monde respire la paix, la réconciliation. Voilà les buts de la construction de cette mosquée. Ainsi donc, après la construction de cette mosquée, les Ahmadis ont la grande responsabilité de répandre l'amour dans cet environnement immédiat, dans cette ville et dans ce pays. Et cette responsabilité a augmenté davantage. Le fait que les médias soient présents ici, le fait de donner des interviews, le fait qu'il y ait des rapports positifs à ce sujet dans les médias et qu'on ait fait mention de la construction de cette mosquée. Et cela doit nous pousser à prouver davantage notre reconnaissance. On doit être davantage reconnaissant envers Dieu. Une récompense que Dieu est en train de vous accorder suite à vos sacrifices et que les médias sont en train de s'intéresser avec cette mosquée et généralement, ils ont évoqué positivement la Jamaat et cette mosquée. Ainsi donc, les sacrifices des Ahmadis sincères de par le monde doivent les pousser à être davantage reconnaissants. Et lorsque l'homme est reconnaissant, il recevra en retour davantage de grâce de la part de Dieu. Ainsi donc, c'est tout un cercle de faveurs. C'est un cercle qui n'est pas limité dans son périmètre. Ce sont comme des ondes qui se répandent. Lorsque vous jetez un caillou dans l'eau, il y a des cercles qui se forment. Ensuite, ces cercles ne font que s'agrandir. Et ces cercles se répandent davantage. Mais une des qualités de ces cercles est que lorsque ces cercles arrivent à la fin, ces cercles ne s'arrêtent pas là. Si un homme ne cesse d'accomplir de bonnes œuvres, après sa mort, dans l'au-delà, Allah va élargir davantage ses bonnes œuvres. Ainsi, quant à ceux qui vont venir remplir cette mosquée, ils recevront davantage de faveurs et de bénédictions. Nous construisons chaque mosquée pour ce but, afin que ces mosquées apportent davantage de grâce et de bénédictions. Maintenant, c'est la tâche de ceux qui habitent ici que de récolter ces grâces et ces bénédictions. Si vous allez faire plus d'efforts en ce sens, vous allez recevoir davantage de grâces et de faveurs, ici-bas et dans l'au-delà. Dieu a évoqué ceux qui viennent remplir les mosquées. Cela a été mentionné dans le verset que j'ai cité au tout début et dont la traduction est comme suit. Assurément, celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croit en Allah et au jour dernier et qui observe la prière et paie la zakat et qui ne craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. La première condition, c'est de croire en Allah. Il ne suffit pas de dire avec la bouche que nous croyons. Allah a évoqué certains signes des croyants. Il ne suffit pas d'accepter l'islam pour être un croyant. On ne peut pas être un croyant tant qu'on n'agit pas comme un véritable croyant. Lorsque les Bédouins parmi les Arabes venaient voir le Saint-Prophète et qu'ils disaient que nous avons cru, Allah a déclaré en s'adressant au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne dites pas que vous avez cru. Dites que nous nous sommes soumis ouvertement. Nous avons accepté l'islam ouvertement. Et un des signes des croyants est que vous devez faire preuve d'obéissance envers Dieu et envers son prophète. Aujourd'hui, les autres disent que nous ne sommes pas des musulmans. Alors que nous avons fait preuve d'obéissance envers Dieu et envers son prophète et nous avons accepté l'imam de l'époque. Et cette obéissance parfaite fait de nous de véritables musulmans et de véritables croyants. C'est vrai que les autres musulmans peuvent dire que nous ne sommes pas musulmans, mais c'est en raison de cette obéissance envers Dieu et envers son prophète. C'est en raison du fait que nous avons obéi à leurs ordres que nous sommes des véritables croyants. Aujourd'hui, les Ahmadis sont la cible de ces persécutions. Mais les Ahmadis ne se sont pas pour autant détournés de l'Ahmadiyya. Sommes-nous les véritables musulmans ou est-ce les autres qui sont les véritables musulmans? Nous ne disons pas concernant ceux qui récitent la kalima qu'ils ne sont pas musulmans, mais nous disons certainement que le Saint-Coran a déclaré que le véritable musulman est celui qui fait preuve d'obéissance et celui qui renforce aussi sa foi et qui ne cesse de renforcer sa foi, celui qui grandit dans sa foi quotidiennement. Et tant que nous allons faire des efforts en ce sens, tant que nous allons progresser dans les bonnes œuvres, lorsque nous allons marcher sur les voies indiquées par Dieu et par son prophète, nous serons de véritables musulmans, de véritables croyants. Nous n'avons pas besoin de fatwa d'un mollah, d'un mufti quelconque ou de la décision d'un gouvernement pour être considéré comme un véritable croyant ou comme un véritable musulman. Nous n'avons pas besoin de certificat de la part de personne pour être un musulman. La chose qui a certifié notre foi et l'effort que nous sommes en train de faire pour suivre les commandements de Dieu et de son prophète. Nous allons recevoir davantage d'attestations lorsque nous allons faire davantage d'efforts. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que il ne suffit pas pour un musulman d'accomplir quelques bonnes œuvres pour recevoir ses faveurs. Il doit accomplir toutes ses bonnes œuvres, il doit se tourner dans cette direction, c'est là qu'il sera considéré comme un véritable croyant. Nous ne devons pas nous contenter du fait que nous avons accepté l'imam de l'époque. Certes, nous avons fait un pas de plus que les autres musulmans en faisant preuve d'obéissance envers Dieu et envers son prophète. Mais au cours de cette vie, on doit faire des efforts constants. On doit toujours être en quête du plaisir de Dieu et on doit toujours faire des efforts pour progresser dans sa foi. Voilà le but de la création de l'homme. Il est dit adorer Dieu. et progresser dans cette voie. Ainsi, un croyant ne peut croiser les bras, ne peut stagner. Parmi les qualités évoquées à propos d'un croyant, je vais vous présenter cela ici. Allah déclare que le plus grand signe d'un croyant est qu'il éprouve un plus grand amour pour Dieu. Ashadu hubba lillah, c'est-à-dire il a un plus grand amour pour Dieu. Quant à une personne qui n'a aucune relation avec la religion, elle comprend cela, que lorsqu'on aime quelqu'un d'un amour fou, on est prêt à tout faire pour cette personne. Ainsi donc, le musulman est en train de proclamer qu'il croit en Dieu et son amour pour Dieu doit avoir prééminence sur tout autre amour. Les richesses de ce bas monde, les éclats et les fastes de ce monde, les occupations sur cette terre, ses enfants, sa femme, sa famille, tout cela n'aura aucune importance face à l'amour qu'il éprouve pour Dieu. Cela va se faire lorsqu'il va agir ainsi. C'est ainsi que l'on doit agir. Lorsque l'on ressentira cet amour pour Dieu, c'est là que l'on va véritablement consacrer toute son adoration pour Dieu. C'est là que l'on va consacrer toute son attention vers l'ibada. Et lorsqu'on va agir ainsi, Inch'Allah, votre mosquée, votre centre, là où vous êtes, ou les autres mosquées que l'on va bâtir dans l'avenir, ces mosquées seront remplies. Lorsqu'on va exprimer cet amour pour Dieu dans nos cœurs, nos enfants aussi en seront influencés. Beaucoup de personnes me demandent de prier pour qu'ils aient des enfants. Nous devons nous-mêmes être des exemples et conséquemment, lorsqu'on va influencer ainsi ses enfants, de génération en génération, on va exprimer cet amour pour Dieu et l'on va remplir ces mosquées. C'est là notre devoir. Nous allons devoir faire grandir cet amour pour Dieu en nous. Nous allons devoir faire des efforts en ce sens. Et nous devons faire goûter cet amour à nos enfants et à nos générations futures. Lorsque nous allons agir ainsi, Inch'Allah, les efforts de nos ennemis, les hostilités que l'on est en train de voir, par la grâce de Dieu, tout cela va disparaître. Lorsque l'homme éprouve de l'amour pour Dieu, Dieu éprouve un plus grand amour pour lui. Et il devient le Mawla, le Wali, le protecteur de son serviteur. Et quant à celui qui a Dieu pour protecteur, cette hostilité temporaire ne peut le nuire. Il y a quelques vagabonds ou quelques enfants qui ont été poussés par les grands pour venir caillasser la mosquée, pour jeter des détritus devant la mosquée. Ces personnes elles-mêmes vont se fatiguer en fin de compte, ou en voyant votre relation avec Dieu, ou ceux qui sont de bonne nature parmi eux vont certainement venir se joindre à vous, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, construire une mosquée n'est pas la fin de votre tâche. Au contraire, après cela, vous allez devoir regardez de près vos actions. Vous allez devoir faire votre analyse de conscience. Vous allez devoir regarder de près votre relation avec Dieu. Il est important d'établir cette relation avec la société afin que le monde puisse comprendre que pour l'amour de Dieu, vous êtes prêt à faire des sacrifices et jamais ceux qui font ces sacrifices ne subissent d'échec. Le fait qu'on ait caillassé la mosquée, qu'on ait jeté des détritus devant la mosquée, ou le fait qu'on ait fait des protestations, tout cela ne peut vous pousser vers l'échec. Le premier signe de ceux qui remplissent la mosquée est qu'ils éprouvent de l'amour pour Dieu, et le fait aussi qu'ils progressent dans leur foi et dans leur piété. Ensuite, Allah déclare à propos des signes des croyants et que lorsqu'on les appelle vers Dieu et vers son prophète, ils répondent « Samirna wa ata'na ». C'est-à-dire que nous avons entendu et nous avons accepté. À propos de ceux qui répondent Samirna wa ata'na, Dieu a déclaré Ulaika humul muflihun, c'est-à-dire que ce sont ces personnes qui ont eu le succès. Le succès est le résultat du fait que l'on ait fait preuve d'obéissance après avoir entendu ces commandements qui ont été énoncés au nom de Dieu et au nom de son prophète. Le fait d'entendre et d'être obéissant concerne toutes ces actions qui sont interdites ou qui sont préconisées par le Saint-Coran. Par exemple, le Saint-Coran a déclaré que vous devez respecter les charges qui vous ont été confiées. Ces charges qui vous sont confiées sont en fait vos responsabilités. Lorsqu'on vous confie une responsabilité, vous devez assumer cette responsabilité. Voilà la charge qui vous a été confiée. Il est dit que vous devez assumer cette responsabilité. Il y a par exemple les responsables au sein de la communauté. Ils doivent consacrer leur temps à la communauté. Ils doivent faire preuve d'équité et assumer leurs devoirs. Ils doivent s'efforcer afin de s'acquitter de leurs devoirs envers les membres de la communauté. Un responsable au sein de la communauté n'est pas comme quelqu'un qui a un poste dans ce bas monde et qui va imposer son autorité. En fait, il est un khadim, il est un serviteur. Dans ce hadith, il est dit que le chef du peuple est le serviteur du peuple. Ce sont ces sentiments que vous devez faire naître en vous. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir accomplir les devoirs qui vous ont été confiés. Il y a certaines personnes qui viennent me rencontrer et disent que nous avons tel ou tel poste au sein de la communauté. Et je leur dis généralement que dites que nous avons tel service à rendre à la communauté. Les autres peuvent vous qualifier de responsable, mais vous-même, vous devez vous considérer comme un serviteur de la communauté. C'est Dieu qui, de par sa grâce, vous a accordé l'opportunité de le servir. Lorsqu'on dit qu'on a un poste, cela va changer l'état d'esprit. On commence à ressentir une certaine grandeur, c'est-à-dire que l'on pense que l'on est maintenant un grand officier. Alors que au sein de la Jamaat, ceux qui ont des responsabilités sont en fait des serviteurs. Et lorsque ces responsables vont s'acquitter de leurs devoirs, c'est là qu'ils pourront être des véritables serviteurs du califat. Les membres de la Jamaat doivent respecter les responsables de la communauté. Ils respectent ces responsables parce qu'il y a une relation entre eux et le califat. Et les membres ordinaires de la Jamaat ne veulent pas désobéir à un responsable pour désobéir ainsi au calife. Il est important pour tous les responsables à tout niveau d'assumer leurs responsabilités.
Har ohdedar ka rakh rakhav, bolchal,
le comportement de chaque responsable, les propos qu'il prononce et ses actes d'adoration doivent le distinguer des autres. Il y a par exemple les responsables de la Lajna Imaïla. Celles-ci doivent respecter les préceptes du Saint-Coran, par exemple les préceptes de la modestie islamique ou de la parda. Si elles n'agissent pas ainsi, elles ne vont pas assumer pleinement leurs responsabilités. Elles ont les mêmes responsabilités, mais une responsabilité de plus par rapport aux hommes, c'est la modestie islamique. Je reçois des doléances concernant la modestie islamique de la Jamaat de la Norvège. À une occasion, un jour, le troisième calife avait sévèrement averti la Jamaat. Et le quatrième calife aussi en a fait de même. Mais si vous, en tant que responsable de la Jamaat, vous n'avez pas atteint la norme requise concernant la modestie islamique, si les femmes et les hommes se rencontrent librement, si on part dans les maisons des autres sans respecter les règles de la parda ou de la modestie islamique, alors qu'il n'y a pas de lien de parenté entre ces gens, tout simplement parce qu'on dit que celui-là est mon frère, ou qu'on dise que celui-là est mon oncle, et que c'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de porter le voile, ou qu'on établit des liens de parenté par la bouche, le Saint-Coran rejette tout cela. Et une croyante a reçu ses commandements, à savoir qu'elle doit respecter les règles de la modestie islamique, elle doit porter le voile, et elle doit faire preuve de modestie. C'est cela son signe distinctif. Si à chaque niveau, au niveau de la Lajna, si les responsables, que ce soit au niveau local, au niveau national, si les dames respectent ces règles de la modestie, et si leur comportement est en accord aux préceptes de l'islam, eh bien, elles seront un très bon exemple pour les autres. Elles seront des exemples pour leurs enfants et pour leur environnement immédiat. Une responsable de la Lajna va assumer pleinement ses responsabilités lorsqu'elle va, en plus de cela, assumer ses responsabilités concernant la parda. J'ai compris la norme de la parda ici lorsque je l'ai rencontrée. Lorsque j'ai vu leur niqab qu'elle portait, j'ai compris qu'elles sont en train de la porter après longtemps et qu'elles n'arrivent pas à la porter facilement. Ainsi donc, les responsables parmi la Lajna Imaïla et les dames ordinaires doivent comprendre leurs responsabilités et assumer leurs responsabilités. Ces temps-ci, il y a certaines qui se disent être modernes et qu'elles n'ont pas besoin de la parda, qu'elles n'ont pas besoin du voile et que ce commandement est un commandement du passé. Mais je veux tout simplement dire ici qu'aucun commandement du Saint-Coran ne concerne le passé. Aucun commandement du Saint-Coran ne s'applique à une époque spécifique ou à un peuple spécifique. Avec ardeur, les hommes et les femmes Sahmati disent avoir une relation avec le calife. Mais dans ce verset du Saint-Coran, où l'on trouve mention du califat, on trouve aussi mention de bonnes œuvres. La condition qui est liée avec le califat, c'est l'accomplissement de bonnes œuvres. Dans la Sourate Nour, on trouve mention de ce verset, on évoque le califat. Dans les versets précédents, il est dit que vous ne devez pas faire des serments que nous allons agir ainsi, que nous allons faire ceci ou cela. Il est dit que ce qui est important, c'est ta'atun ma'roufa, c'est-à-dire que vous devez faire preuve d'obéissance. Vous devez faire preuve d'obéissance en toute chose. Vous devez obéir à tout commandement de Dieu et de son prophète. Lorsqu'on vous présente cela, vous devez suivre ces commandements. Lorsqu'on vous présente les préceptes de Dieu et de son prophète, vous devez les accepter immédiatement. À plusieurs reprises, je l'ai dit ouvertement dans le passé, que d'une part, les femmes doivent rehausser le niveau de leur ibada, à l'instar des hommes, elles doivent respecter tous les préceptes du Saint-Coran et elles doivent aussi respecter tous ces commandements qui concernent les femmes spécifiquement. Ici aussi, je dois dire que il est dit que les femmes doivent se couvrir, cela concerne les femmes, mais il est aussi dit qu'elles doivent baisser leur regard et qu'elles doivent éviter toute forme de familiarité. Cela concerne à la fois les hommes et les femmes. Les hommes en premier sont adressés et il est dit qu'ils doivent baisser leur regard. Et les femmes aussi doivent en faire de même. Les hommes doivent le faire en premier afin de ne pas regarder à droite et à gauche. Concernant les charges qui vous sont confiées, il y a le droit de vote qui vous a été donné. Ensuite, il y a l'engagement que vous avez pris avec le Messie promis, alayhi salam. Vous devez comprendre cela. Allah a déclaré ouvertement que lorsqu'on vous a confié une charge, vous serez questionné à ce sujet. Ensuite, parmi les bonnes œuvres, Allah a déclaré que vous devez éviter l'orgueil, vous devez faire preuve d'humilité. Dans la plupart des cas, les disputes que l'on voit ici et là sont le résultat de cet orgueil, de cette arrogance. Si l'homme réfléchit sur sa propre personnalité, sur son importance à lui, il va tout le temps faire preuve d'humilité. Une personne elle-même doit faire cette analyse concernant sa propre personne. Lorsque quelqu'un d'autre va lui dire d'agir ainsi, il sera en colère. Toute personne doit avoir l'habitude de réfléchir sur sa propre personne. Faites cette analyse en toute honnêteté, en regardant de près les commandements du Saint-Coran. Si vous avez la crainte de Dieu au cœur, et certainement tout Ahmadi ressent cette crainte au cœur, il ne suffit donc que de réveiller cette conscience et il sera facile de faire cette analyse. Lorsque vous lisez le Saint-Coran, réfléchissez sur les commandements du Saint-Coran, ayez cette habitude. Aujourd'hui, je ne pourrai pas présenter en détail tous ces commandements du Saint-Coran. Chacun doit faire son analyse de conscience et cela va se faire lorsque l'on va dans chaque maison lire le Saint-Coran régulièrement, lorsqu'on va faire des efforts pour comprendre le Saint-Coran, lorsqu'on va faire des efforts pour agir selon les préceptes du Saint-Coran. On doit regarder de près la situation des enfants, s'ils sont en train de prier, s'ils sont en train de lire le Saint-Coran. Tout Ahmadi qui est dit croire en Dieu doit se souvenir de ce fait, à savoir que sa déclaration de foi sera parfaite lorsqu'on va croire aussi dans l'au-delà, lorsqu'on aura cette certitude, lorsqu'il sera clair qu'après cette vie sur terre, il y aura une autre vie dans l'au-delà. Et ainsi, on aura à donner des comptes concernant les actions que l'on a accomplies. C'est là-bas qu'on va prendre la dernière décision. C'est là-bas qu'il y aura cette rétribution. Ainsi donc, Allah a évoqué des signes concernant ces gens qui se présentent à la mosquée, à savoir que ces gens croient aussi dans l'au-delà. Ces gens croient qu'après leur mort, ils auront des comptes à rendre et cette vie dans l'au-delà existe, ce règlement de compte existe, et s'ils ont cette certitude, ils vont se présenter dans le Saint-Coran, mais ils vont essayer de suivre tous les autres commandements de Dieu, afin qu'ils puissent être les héritiers des faveurs de Dieu. Ensuite, Allah a déclaré que lorsque votre foi sera parfaite, lorsque vous aurez cette certitude, que cette rétribution existe dans l'au-delà, qu'on aura des comptes à rendre dans l'au-delà, on va en toute sincérité se prosterner devant Dieu. On va consacrer toute son attention vers l'ibada. Et dans les hadiths, il est dit que la meilleure ibada est la salah. Lorsque les croyants vont se rencontrer pour la prière, d'une part, ils vont exprimer l'unicité de Dieu, et d'autre part, ils auront de bons sentiments les uns à l'égard des autres. Ensuite, on va se tourner vers les autres actions qui concernent nos devoirs envers Dieu. ou qui concerne le devoir envers les créatures de Dieu. Il est important de transmettre le message de Dieu aux autres et de s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu. C'est pour cette raison que ceux qui se présentent à la mosquée doivent comprendre qu'ils ont des devoirs envers Dieu et envers ces créatures de Dieu, et pour cela, ils ont à faire des sacrifices financiers, ils ont à présenter leurs biens aux autres, ne doivent pas limiter leurs biens à leur personne. Ils doivent utiliser cet argent pour la foi et pour servir les créatures de Dieu. Ici, on a utilisé le terme zakat, et dans d'autres endroits, dans le Saint-Coran, on a évoqué à la fois la salat et les sacrifices financiers, afin que d'une part l'on puisse combler les besoins de la foi, et afin que d'autre part aussi l'on puisse venir en aide aux démunis. Ceux qui construisent les mosquées et ceux qui viennent remplir les mosquées sont ceux qui, matin et soir, font des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. En leur cœur, il y a cette crainte de Dieu. Tout cela en raison de l'amour qu'ils éprouvent pour Dieu. Ensuite, cette crainte et cette humilité les poussent à accomplir davantage de bonnes œuvres. Voilà ces personnes qui ont été bien guidées. Voilà les personnes qui ont été considérées comme guidées par Dieu. Par la grâce de Dieu, la Jamaat de la Norvège a fait de grands sacrifices et la Jamaat de la Norvège a dépensé environ 104 millions de krones pour la construction de la Jamaat. Et il y a aussi le centre qui les a aidés, mais les autres dépenses ont été faites par la Jamaat de la Norvège. La construction de cette mosquée a pris beaucoup de temps, comme je l'ai dit, mais lorsqu'en 2005, j'ai encouragé la Jamaat à bâtir cette mosquée, ils ont consacré leur attention concernant cette mosquée. Certains ont vendu leur maison pour contribuer à la construction de cette mosquée. D'autres ont vendu leur voiture pour cela. D'autres ont commencé à chercher un deuxième travail afin de pouvoir contribuer pour la construction de la mosquée, de la maison de Dieu. Des femmes aussi ont fait des sacrifices par la grâce de Dieu. Il y a certains qui ont des business et qui ont complété leur promesse. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont fait ces sacrifices. Qu'Allah bénisse leur business, car certains sont en difficulté en raison de la situation d'aujourd'hui. J'ai l'espoir que on a fait tous ces sacrifices avec l'intention que l'on va venir remplir cette mosquée. Et que l'on va remplir cette mosquée selon la manière que Dieu l'a dit. On va essayer d'être parfait dans sa foi et que l'on va faire naître en soi la crainte de Dieu et que l'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et que l'on va aussi progresser dans l'accomplissement de ses bonnes œuvres et l'on va faire en sorte que ses enfants et ses descendants puissent avoir de l'amour pour la mosquée. Et ainsi, Dieu nous a accordé cette grâce aujourd'hui en envoyant l'amour parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons devoir renforcer sa main, nous allons devoir faire progresser sa mission. Nous devons nous efforcer en ce sens et nous devons transmettre ce message. Nous devons inviter les gens vers Dieu. Comme je l'ai dit auparavant, on a de grandes responsabilités après la construction de cette mosquée. Lorsque nous avons construit cette mosquée, nous avons élargi ses responsabilités. Si nous n'assumons pas ces responsabilités, nous allons nous priver de l'amour de Dieu. qu'Allah fasse qu'il n'en soit pas ainsi. D'une part, nous avons cette grande joie, à savoir que ici en Norvège, nous avons bâti la première mosquée Ahmadi. D'autre part, on a des soucis à se faire. Qu'Allah fasse que tous les Ahmadis puissent comprendre ce souci, qu'ils puissent accomplir leurs devoirs, qu'ils puissent assumer leurs responsabilités après avoir présenté ces grosses sommes pour la construction de la mosquée. Pour embellir cette mosquée, on a dépensé des centaines de milliers de krones. Quelqu'un a présenté des tapis pour la mosquée, d'autres ont présenté des meubles pour à la mosquée. Quelqu'un a offert tous les meubles de ce complexe. Mais ces sacrifices ne doivent pas s'arrêter là. On ne doit pas se contenter uniquement de ces sacrifices. Il ne suffit pas d'embellir cette mosquée. On ne doit pas croire ou penser que cela suffit pour nous. On doit maintenir la véritable beauté de cette mosquée et cela va naître avec les cinq prières quotidiennes. Une fois, on avait évoqué la construction de la mosquée au Messie premier, l'Islam. Il a déclaré que la beauté des mosquées ne réside pas dans ces bâtiments, mais réside dans ces personnes qui viennent se présenter sincèrement de la mosquée. Sinon, toutes ces mosquées sont là et sont vides. À l'époque, il y avait toutes ces mosquées qui étaient vides. La mosquée du Saint-Prophète était toute petite. Son toit était fait de branches de dattier et lorsqu'il pleuvait, la pluie tombait sur le sol. La beauté d'une mosquée réside en ces personnes qui viennent y prier. À l'époque du Saint-Prophète, les gens de ce monde avaient bâti une mosquée qui a été démolie par l'ordre de Dieu. C'était la mosquée de Zarara. Ainsi donc, on a démoli cette mosquée. Il est dit à propos des mosquées que l'on doit les construire avec taqwa. C'est donc cette taqwa que nous devons faire naître en nous. Et le Messie premier, l'Islam, a exprimé cela à plusieurs reprises. Le Messie premier, l'Islam, déclare que le Saint-Coran nous enseigne la taqwa. La taqwa est le but premier du Saint-Coran. Si l'homme n'adopte pas la taqwa, eh bien ses prières ne servent à rien. Au contraire, ces soins-là peuvent le mener vers l'enfer. Il déclare que si vous ne possédez pas la taqwa, eh bien la soins-là va vous mener même jusqu'en enfer. Ensuite, il a déclaré que la racine de tout est la taqwa et la pureté. C'est grâce à cela que naît la foi. Et c'est ainsi qu'on arrive à irriguer la foi. On reçoit la foi grâce à la taqwa et la foi grandit grâce à la taqwa. Tout comme on arrose un arbre pour que cet arbre grandisse, c'est ainsi que l'on doit arroser la foi grâce à la taqwa. Et c'est ainsi que l'on arrive à réprimer ses passions charnelles. C'est pour cette raison que Dieu a établi cette communauté, c'est-à-dire afin d'établir la taqwa, car la voie ou le champ de la taqwa est vide. Quant à celui qui marche vers la voie de la taqwa, il est avec nous. Nous devons tout le temps avoir en tête cela, à savoir que l'on doit respecter les préceptes de la Baïra et nous devons suivre les préceptes de la taqwa. Aujourd'hui, ce sont les Ahmadis qui ont eu cette connaissance en se liant au Messie promis alayhi salam. Nous disons avoir fait la Baïra. Et si nous n'essayons pas de remplir le champ de la taqwa, eh bien, nous ne serons pas de ceux qui vont accomplir le but de la création de la Jamaat. Car tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, Dieu a établi cette communauté pour la taqwa. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse comprendre cette responsabilité importante. Ici, dans ces pays, réside le shirk. Si nous n'accomplissons pas notre objectif, Si nous ne reconnaissons pas les buts de la Baïra, eh bien, certainement, Dieu va nous châtier. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui reçoivent l'amour de Dieu. Je veux présenter quelques détails concernant la mosquée Nasr. Le terrain sur lequel se trouve la mosquée est de 9563 m². La superficie de la mosquée est de 7759 m². Dans la partie qui concerne les hommes de la mosquée, et cette superficie est de 880 m². Et cette partie peut accueillir 1400 personnes. Il y a aussi une galerie de 298 m² qui peut accueillir 500 personnes. Dans la partie qui concerne les femmes, on peut accueillir 850 dames. Il y a aussi une salle qu'on avait bâtie en premier. On peut accueillir 850 personnes dans cette partie. Il y a aussi un appartement pour le missionnaire. C'est un appartement complet de 3 pièces par la grâce de Dieu. En tout, cette mosquée peut accueillir 2250 personnes pour la prière. Il y a une salle qui est en bas et on peut utiliser la terrasse ou le toit de cette salle. Et si le temps est clément, eh bien, on pourra accueillir environ 800 personnes sur cette terrasse. Le minaret fait 21 mètres et la dôme fait 5 mètres. Il y a aussi une bibliothèque, des bureaux, il y a aussi les bureaux pour les organisations auxiliaires et pour la Lajna Imaïla. La Lajna Imaïla a une bibliothèque, ils ont aussi leur bureau. Il y a aussi une grande cuisine, par la grâce de Dieu. On n'a pas eu la permission pour la construction de la mosquée. Il y a eu des difficultés avec la mairie. Il y a une route qui passe à côté. Il y avait des difficultés à ce sujet. Et la Jamaat a offert cette route pour le public. On a aussi offert un trottoir. Donc on a dépensé en tout 104 millions. Pour la construction de cette mosquée. Il y a donc une autoroute qui passe à côté. Et de cette autoroute, on peut voir la mosquée. Il y a environ 80 000 voitures qui passent sur cette autoroute tous les jours. Il y a aussi les services de transport qui sont proches. Ainsi donc, cette mosquée se trouve dans un centre. Qu'à la face, que l'on puisse remplir cette mosquée avec la même ardeur que l'on a bâti cette mosquée. Qu'à la fasse que cette mosquée puisse aussi ouvrir les cœurs des gens d'ici. En général, les gens d'ici sont contents, mais il y a aussi des musulmans qui sont ici, comme je l'ai dit, et qui sont sous l'influence des mollahs et qui lancent ces accusations à tort et à travers contre nous. Et cette hostilité est en train de grandir. Et c'est pour cette raison que, comme je l'ai dit, au cours de la construction de la mosquée, ces gens ont essayé de saccager la mosquée. Mais nous faisons toujours preuve de patience et nous prions tout le temps. C'est ainsi que nous allons tout le temps agir, Inch'Allah. Voilà comment doivent agir ceux qui se disent être du saint prophète. Ils prient tout le temps pour que Dieu guide ces gens vers la voie qui est droite, que Dieu guide ces personnes. En ce qui concerne notre relation avec les non-musulmans, ils sont certainement contents, mais nous, nous serons contents lorsque nous allons pouvoir faire ancrer dans leur cœur les enseignements sublimes de l'islam. Mais pour cela, nous allons devoir répandre ce message. Nous allons devoir faire des efforts constants en ce sens. Le Messie promis, alayhi salam, avait dit que si dans un endroit on ne connaît pas des musulmans, là-bas on doit construire une mosquée et les gens vont vous connaître. Par la grâce de Dieu, la construction de cette mosquée est en train de prouver qu'on est en train de connaître la Jamaat et l'islam. Grâce à cette mosquée, l'on va devoir dire aux gens d'ici que la mosquée est un endroit où l'on rend culte à Dieu l'unique. Et les véritables adorateurs de Dieu ne peuvent désirer le mal à l'égard des autres. D'une part, nos mosquées partout, et cette mosquée-là va toujours lancer des cris d'amour et de paix, qu'à la face que nous puissions atteindre l'objectif de cette mosquée, que nous puissions progresser dans notre taqwa, dans notre spiritualité, que nous puissions faire entrer l'amour de Dieu dans nos cœurs, que nous puissions avoir cette tranquillité au cœur et que chacun d'entre nous puisse être un exemple d'amour et de fraternité. Le Messie premier al-Islam dit dans un endroit que plus vous ressentirez d'amour à l'égard des autres, à l'égard de vos frères, plus vous allez recevoir d'amour de la part de Dieu. Qu'à la face que nous puissions grandir dans cet amour mutuel. Car tant que cet amour mutuel n'atteint pas son apogée, nous n'allons pas pouvoir présenter aux autres ces enseignements d'amour. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Après cela, je dois annoncer un décès. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de M. Safir Ahmad Bhatt, fils de Hamid Ahmad Bhatt de Karachi. Il était du Sindh, il est né en 1972, il a fait des études secondaires de la région. Son père était Hafiz Abdul Wahid et travaillait avec le deuxième calife. Il était à Waqfi Zindagi. Il était en fait le petit-fils de Hafiz Abdul Wahid et son père s'était dédié pour la cause de Dieu. Son père était un enseignant, il était Hamid Ahmad Bhatt et travaillait dans l'école de la communauté. Le 25 septembre dernier, des inconnus ont tué M. Safir Ahmad Bhatt. Il est décédé des suites de ses blessures. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était dans la police. Il était brave. Il avait reçu un appel et il était parti en moto. Et en cours de route, on lui a tiré dessus. Il avait des mission spécifique au sein de la police. Il a participé dans des campagnes contre les terroristes et contre les trafiquants de drogue. Et il a eu beaucoup de succès dans ce domaine. Et apparemment, on comprend qu'il a été tué pour cette cause, qu'Allah exalte son statut. Un Ahmadi, en raison de l'Ahmadiyya, en raison de sa foi, il est en train de tomber en martyr au Pakistan. Et ensuite, les Ahmadis sont en danger parce qu'il n'y a pas de loi au Pakistan. Ensuite, il y a ces Ahmadis qui travaillent pour l'État et qui sont en train d'agir pour le bien-être de leur pays. Ces Ahmadis aussi sont en train de se sacrifier pour ce pays. En dépit de cela, il y a cette nuance que les Ahmadis ne se sacrifient pas pour leur pays. Là, on a besoin d'Ahmadis. Là, on a besoin des gens braves. Là, on a besoin des gens équitables. Là-bas, on choisit les Ahmadis. Et lorsqu'il agit ainsi, c'est vrai que la police lui a conféré les honneurs qui lui sont dus selon les traditions et qu'ils étaient présents pour la janaza. Il a été enterré à Rabwa parce qu'il était un moussi, mais les ulémas disent que les Ahmadis ne sont pas fidèles envers leur pays. Alors, ceux qui sont véritablement fidèles envers leur patrie sont les Ahmadis. En tout cas, c'est une tâche que nous allons devoir accomplir toujours. Qu'Allah guide ces gens, qu'Allah exalte le statut du défunt, qu'Allah accorde patience et persévérance à sa femme et à ses enfants.